France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse, désormais en hebdo le vendredi de 10h à 11h. Et ce matin, comment les séries nous aident à penser nos vies, à philosopher sur nos existences, comment les personnages, les intrigues, les arcs narratifs nous permettent de mieux comprendre ce qui nous arrive. Les séries comme instrument de connaissance de soi, mais aussi comme outil pour prendre soin de soi. Pour nous éclairer ce matin, l'autrice Clémentine Haynes, qui publie Un stoïcien à Hollywood, sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous raconter quelles sont les séries qui vous ont vraiment aidé dans la vie. Deux chroniqueurs qui pourraient incarner un duo d'enquêteurs chic et bohèmes, Guillemette Odissino et Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Thibaut.
Bonjour Ali.
Honorable chercheur en philosophie, quoi de neuf dans vos punchlines de la philo en fin d'émission?
Eh bien, on part au milieu du 19e siècle avec Karl Marx, le gros barbu, et une question: la religion est-elle vraiment l'opium du peuple?
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Dans un état proche de l'Ohio, vous êtes levé très 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 tôt ce matin pour être avec nous.
Ah ouais, mais moi je travaille. Je traverse la planète pour être là.
Vous êtes présidente du Festival de Biarritz.
Enfin, non, j'étais présidente du jury,
du jury
de la critique.
Voilà.
Et donc, je me suis levée très tôt pour vous rejoindre.
Et vous êtes chef de rubrique Cinéma Télérama. Cette semaine, il s'agira d'une cinéthérapie teintée de sérithérapie.
Oui, bah oui, parce que vous m'avez dit, bah non, alors là, c'est des séries, donc fais une sérithérapie. Et moi, je suis obéissante, surtout quand je me lève à 5h du matin.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Je m'appelle Marie-Alice Yang. En lisant le journal ce matin, vous êtes peut-être tombé sur l'article qui décrit la journée hors du commun que j'ai vécue la semaine dernière. Habituellement, il ne se passe rien d'extraordinaire dans ma vie. Mais tout a changé jeudi dernier. Pour commencer, tout semblait parfaitement normal. J'ai préparé le petit déjeuner pour ma famille, effectuer quelques tâches ménagères. En fait, la journée s'est déroulée comme une journée ordinaire. J'ai passé mon temps à astiquer mon petit quotidien jusqu'à lui donner une brillance parfaite. Voilà pourquoi il est si incompréhensible que je me sois dirigée ensuite vers le placard de l'entrée pour m'emparer d'un revolver qui n'avait jamais servi.
J'aimerais qu'on trinque. Mesdames, levons nos verres à Marie-Alice, notre voisine et amie. Où que tu sois, j'espère que tu as trouvé la paix.
À Marie-Alice. À Marie-Alice.
La série Desperate Housewives, créée en 2004 par Marc Chéry. Bonjour Géraldine Hines. Vous êtes créatrice de contenu. Ah, Clémentine, pourquoi je dis Géraldine? Je ne sais pas pourquoi.
On m'a jamais appelée Géraldine, c'est la première fois.
C'est l'inconscient qui parle. Bonjour Clémentine Hines, vous êtes créatrice de contenu de vulgarisation sur YouTube, ça s'appelle Parle-moi Philo, et vous publiez aux éditions de L'Étudiant, un stoïcien à Hollywood sous-titré Le bonheur en série. Alors Clémentine, vous défendez l'idée que les séries peuvent nous aider à trouver le chemin du bonheur. Mais de quel bonheur s'agit-il? Il existe des milliards de représentations du bonheur véhiculées notamment par le développement personnel.
Tout à fait. Alors, je ne m'interroge pas exactement sur est-ce que les séries peuvent nous aider à trouver le bonheur. C'est plutôt une question de se dire quel bonheur est représenté dans les séries. Et je trouve que les séries sont un bon terrain de jeu pour réfléchir à ça, parce qu'elles fonctionnent un petit peu comme un miroir, on va dire, de notre société, à la fois en mettant en scène notre vie quotidienne, nos questions du quotidien. Alors, plus ou moins du quotidien selon les séries, on se retrouve peut-être un petit peu plus dans le quotidien de Friends ou Desperate Housewives que dans le quotidien de Game of Thrones. Mais voilà.
Et pourtant.
C'est ma vie quotidienne.
ça dépend de la vie de chacun. Mais voilà, elles permettent de mettre en scène une sorte de, j'allais dire, de philosophie appliquée, de philosophie du quotidien. Qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Etc. Et c'est un miroir qui fonctionne dans les deux sens, parce qu'elles sont aussi, dans une certaine mesure, prescriptrices, on va dire. Elles répètent certains messages, certaines idées. En tout cas, dans les séries que j'ai étudiées dans le livre, je me suis principalement intéressée aux séries, on va dire, occidentales, américaines, etc. J'imagine que si on regarde du côté des séries asiatiques ou d'autres cultures, on aura des messages différents. Mais elles véhiculent certains messages, plus ou moins implicites, qui vont nous bombarder et qui vont du coup influencer, nous, notre représentation du bonheur qu'on a. Et j'ai trouvé intéressant de se poser la question de quels sont ces messages, pas forcément pour dire est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont mal, il faut faire comme dans les séries ou pas, mais juste se dire en quoi ça impacte notre vision du bonheur au quotidien.
Thibaut de Saint-Maurice, dans le premier volume de votre livre Philosophie en série, précurseur du genre, vous rappelez que les séries sont un formidable miroir de la vie et constituent, je vous cite, un grand réservoir d'expériences et de situations exemplaires auxquelles tout le monde peut facilement faire référence.
Ben oui, parce que, en tout cas, je ne sais pas pour vous ou pour nos auditeurs ou auditrices, mais moi j'ai une vie qui est assez banale en fait et assez, surtout, assez peu large. Je ne connais pas de parrain de la mafia, je ne connais pas d'agent secret, pas que je sache. Je ne vis qu'à mon époque, dans un certain milieu, avec une certaine profession. Et donc, ça, c'est de la sociologie de base. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on est pris dans un cadre assez, en tout cas pour moi, assez peu divers et assez peu ouvert. Et effectivement, la diversité des situations et des propositions que ce grand catalogue de séries, désormais encore plus accessible à travers les plateformes, etc., nous propose, participe à une forme d'élargissement de notre expérience. Et de ce point de vue-là, on peut citer plein de sujets, la manière dont on est rentré dans les bureaux des hommes politiques, dans les prisons, dans les coulisses des cuisines, dans les coulisses de la fabrication même des émissions de télé, dans les coulisses de la famille royale britannique, etc., etc. En ce moment, il y a une très grande série Empathie qui nous fait entrer dans les couloirs des instituts psychiatriques pénitentiaires.
Sur Canal+,
sur Canal+, voilà. Et donc, tout ça fait que notre expérience est élargie et qu'en élargissant notre expérience, eh bien, en fait, on se confronte aussi à des questions ou des situations qu'on n'a peut-être jamais rencontrées dans notre vie. Et c'est là où, effectivement, y a la possibilité de reprendre cette expérience et de s'interroger, de se dire, effectivement, qu'est-ce que je ferais dans cette situation ? Tiens, c'est étonnant de voir comment est-ce qu'ils réagissent, etc.
Et oui, Clémentine Haines, comme vous l'écrivez dans votre livre, les séries sont gorgées de problématiques philosophiques.
Tout à fait. C'est vraiment de la philosophie du quotidien. C'est des situations qu'on a vécues ou qu'on aimerait peut-être vivre ou qui nous feraient peur de vivre. En ça, elle se rapproche un petit peu, on pourrait dire, du théâtre grec dans l'Antiquité qui avait pour but de faire vivre des passions à travers ces histoires et de peut-être aussi un petit peu les canaliser. Et en ça, les séries sont hyper intéressantes à étudier.
Guillemette.
Oui, parce que j'aimerais justement faire une petite... Thibaut, à juste titre, a dit que les séries nous ouvraient sur des univers qu'on n'est pas prêt de connaître. Mais effectivement, la particularité de la série, parce que rencontrer des mafieux, partir au fin fond de l'Amazonie, etc., ça, le cinéma nous l'a toujours proposé. C'est-à-dire des mondes qu'on ne connaît pas. En revanche, la série... en tout cas une certaine sorte de série, donc en plus Clémentine vous parlait, a commencé à nous raconter des choses incroyablement quotidiennes. C'est-à-dire juste des potes qui habitent ensemble et qui se balancent des vannes pendant 18 saisons, des familles plus ou moins dysfonctionnelles, des mères et des filles qui habitent ensemble, on en parlera. Enfin, donc en fait, soudainement, c'est ce quotidien que des gens n'allaient pas forcément voir au cinéma quand on leur disait « Oui, tu vois, c'est un film qui raconte une histoire de famille. Oh mince, non, ça manque de vaisseaux spatiaux et de je sais pas quoi. » Et en revanche, à la télé, quand des séries leur proposaient ça, là, tout d'un coup, oui, il y avait ce phénomène de rencontre avec le... Alors oui, d'autres quotidiens, évidemment, dans une petite ville américaine, au fin fond du Texas et tout, mais il n'empêche que c'était le quotidien qui nous impactait. Et ça, c'était nouveau.
Clémentine Haines.
En fait, c'est à la fois, du coup, très intéressant, et en même temps, c'est de ça qu'il faut aussi se méfier un petit peu, sans vouloir jouer les complotistes ou les crier à l'alarme. C'est que, du fait que, dans les séries télé, il y a une très forte émotion, il y a des messages qui sont vraiment répétés, parce qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup de séries, on regarde longtemps des séries. Ces deux facteurs font qu'on est aussi très perméable aux messages qui sont véhiculés. C'est-à-dire que si aujourd'hui je vous parle, je ne sais pas, des violences faites aux femmes, que je vous cite des chiffres et tout, vous allez peut-être le retenir ou pas, selon votre sensibilité. Mais si je vous montre un épisode de La Servante écarlate, là, d'un coup, ça va beaucoup plus vous marquer. Si je vous dis ce qui est important dans la vie, c'est pas forcément, la vie politique ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de trouver la relation amoureuse qui vous convient. Bon, peut-être, mais si vous regardez 10 saisons de Friends, ce que j'ai fait plusieurs fois, ce que je refais régulièrement, les 243 épisodes de Friends, c'est un matraquage un petit peu de voilà ce qui est important, voilà ce que c'est que réussir sa vie, voilà ce que c'est que le rêve américain, etc.
Et à propos de rêve américain, on vient d'entendre le générique de la série américaine donc Desperate Housewives, qui se déroule dans le quartier résidentiel de Wisteria Lane, avec ses maisons cossues, ses jardins fleuris, sa vie sociale intense, mais aussi ses secrets plus ou moins sombres. 5 voisines amies, Brivan de Camp, Gabrielle Solis, Lynette Scavo et Suzanne Mayer, et la 5e, Marie-Alice Young, hein, qui s'est donc suicidée. Et cette question du bonheur qui irrigue les 8 saisons de cette série, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, et c'est là où il y a une particularité de la série aussi, c'est que, en un sens, ce qui se passe à Wisteria Lane et à Desperate Housewives, c'est d'une banalité, entre guillemets, sans nom. Non, mais en termes de cadre.
Oui, c'est un beaucoup de cadavres quand même. Hein, ouais.
En revanche, ils avaient fait exprès de choisir vraiment une banlieue, un lotissement, etc. En revanche, ce qui n'est jamais banal et ce qui est intéressant dans Desperate Housewives et dans les séries de ces 20 dernières années, ce sont les personnages. Et ces personnages-là, puisqu'ils se développent sur le temps long, on a le temps de comprendre un peu mieux leurs raisons, leurs choix, leurs décisions. Et puis, on a le temps de les voir évoluer. C'est vrai qu'on a dit déjà, les séries ont un côté miroir, ok. Mais on pourrait dire, en un sens, peu importe le miroir, parce qu'on pourrait discuter sans fin de savoir si ce miroir est réaliste, pas réaliste, etc., etc. Quand je regarde une série qui se passe dans l'espace ou Game of Thrones, finalement, la question du réel n'est pas là. En revanche, eux, les personnages, eh bien, ils ont une sorte de réalisme psychologique avec une évolution. Et cette évolution-là, elle est intéressante parce qu'au fond, ils cherchent quelque chose, comme nous, on cherche quelque chose aussi dans nos vies. Et cette dynamique, en fait, de l'apprentissage, d'une forme d'éducation des personnages par les situations qu'ils rencontrent, c'est ce qui se passe dans Wisteria Lane. Tout d'un coup, en fait, on a des adultes, des gens qui se sont bien posés, des mères de famille qui se rendent compte que le bonheur, c'est pas si facile et qu'elles ont apparemment tout pour être heureuses, mais en fait, elles ne le sont pas et donc s'engagent. En fait, une sorte de conversion comme ça vers la question du sens de leur existence, la découverte que ce qui est important, c'est de structurer des relations amicales qui dépassent le simple voisinage, etc. Et moi, c'est ça qui je trouve vraiment très singulier, c'est cette fréquentation un peu assidue de personnages qui se transforment et qui évoluent. Et à l'inverse, en ce moment, je regarde une série que pour le travail, mais que je trouve mauvaise. Et alors qu'elle a beaucoup de succès, en tout cas qu'elle a pas mal de succès, et elle est très bien mise en scène, il y a beaucoup de moyens.
Laquelle
j'arrive. Et en fait, pourquoi est-ce que je la trouve mauvaise? Je me suis posé la question. Eh bien, parce que les personnages n'évoluent pas. Les personnages restent bruts dans des positions morales ou des postures narratives qui, au bout de 10 épisodes, n'ont pas évolué. Cette série, c'est la série 1883, qui est une sorte de préquel de la série de Taylor Sheridan, qui s'appelle Yellowstone, et une série qui est un peu décriée en ce moment parce que...
Préquel, c'est qui précède.
Voilà, qui raconte l'histoire avant, et c'est un univers de série de Taylor Sheridan qui est un petit peu discuté aujourd'hui parce qu'on considère que c'est une série très conservatrice, etc. Et en fait, je trouve cette série, le premier épisode au 10e épisode de ces 10 épisodes, les personnages n'ont pas changé.
Clémentine Hens, attachement aux personnages, à ce qui leur arrive dans la vie. Sur le temps long, nous vieillissons avec les personnages de séries préférées. Et comme le rappelle la philosophe Sandra Laugier, il y a peu de personnages dans la réalité que l'on accompagne aussi longtemps.
C'est vrai. C'est vrai, mais j'ai envie de rebondir parce que justement, il y a un point très intéressant qui a été touché, c'est cette notion justement d'identification au personnage.
Sur le temps long.
Sur le temps long, et c'est là où on touche à un point un petit peu dangereux, le terme est un petit peu excessif peut-être, mais dangereux des séries télé, c'est qu'elles nous montrent justement un récit. J'ai pas besoin de vous le dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité, mais ça nous donne l'impression qu'on peut vivre notre vie comme un récit. C'est quelque chose qui peut être très utile, j'en parle un petit peu dans le livre, par exemple, j'ai été amenée à passer des entretiens d'embauche, des entretiens même pour rentrer notamment en école de commerce, etc. Et clairement, mon dossier disait, cette fille ne sait pas ce qu'elle veut faire. J'ai fait plein d'études différentes, etc. Je me disais, comment je vais justifier le fait de me présenter aujourd'hui dans cette école de commerce? Et on m'a dit, il faut que tu racontes ton parcours. Et donc, j'ai travaillé ce qu'on appelle le fameux storytelling, de dire voilà pourquoi j'ai fait ça, ça s'est passé comme ci, comme ça. Et d'un coup, mon parcours devenait quelque chose de complètement logique, une succession d'événements qui étaient là pour m'amener aujourd'hui devant ce jury où c'était la seule place où je devais être. J'ai été reçue en école de commerce. Mais c'était faux. Ouais. J'étais perdue. Si j'étais là, c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et ce storytelling, il peut être dangereux parce qu'il nous donne l'impression qu'il y a comme un plan de l'univers plus grand que nous. Dans les séries, il y a du Deus Ex Machina. Ouais. On fait rentrer un personnage. S'il est arrivé tel malheur à Suzanne Mayer ou quelque chose, ça lui a permis en fait de rencontrer ensuite Mike Delfino. Ça lui a permis.
Dans Desperate.
Oui, je continue sur Desperate Housewives. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la politique en termes de spoiler, mais je pense que bon, là, la série est finie depuis assez longtemps pour qu'on puisse la spoiler un petit peu.
La divulgâcher.
J'utilise jamais ce terme. Voilà, ça, dans les séries, il y a une notion de avant, de après, d'éléments déclencheurs qui ne sont pas forcément présents dans nos vies. Et ça peut parfois nous rassurer de nous dire qu'en fait, il va se passer quelque chose, que l'univers a un plan pour nous. Mais ça peut être aussi très angoissant parce qu'en fait, il n'y a pas de plan, sans vouloir vous spoiler la vie. Et c'est cette différence entre...
Il y en a qui croient, voilà, un plan, c'est... un dessin. En tout cas, il est à 10h23, l'heure de retrouver la ciné-thérapie de Guillemette Audicino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Alors, cher Ali, comment les séries nous aident à penser notre vie? Comme vous y allez, vous. Penser ma vie? Alors, j'ai déjà du mal à 56 ans à décider ce que je dois manger au petit-déj. Bon, et alors, je regarde les films de Claudia Cardinal, par exemple, et j'entends...
Raconte.
Je m'appelle Vénus, j'ai 19 ans, ni père ni mère, mais des amants. On dit que c'est pas causé, mais je danse, je vole, je vis. Et toi?
Et moi, Claudia, je ne suis pas toi. Enfin, je ne suis vraiment pas Claudia. Et d'ailleurs, si j'avais pensé ma vie comme une Vénus, peut-être que mon ex ne m'aurait pas fait la gueule chaque fois que j'avais une petite demi-heure de retard pour partir en week-end. Et me voilà en plus chargée de prescrire des fictions télé qui donnent des solutions clés en main. Bon, alors je préviens, les deux séries que je vais ardemment vous conseiller ne vous transformeront pas en Claudia Cardinal, en Robert Redford ou en Suzanne Mayer. Mais elle prouve qu'on peut penser sa vie, mais avec un A, comme pansement. Et faire de nos complexes des forces, si les autres, évidemment, nous soutiennent. Tabernacle ! Vous auriez cru que le quotidien d'un institut psychiatrique québécois pouvait vous réconforter ? Eh bien, vous allez le croire. Et alors, dur comme fer, grâce à Empathie, dont Thibault parlait. Cette merveille conçue et jouée par Florence Lompré. Alors déjà, on se jette sur cette série, ne serait-ce que pour faire mentir Elon Musk. De toute façon, il faut faire mentir Elon Musk tout le temps. Qui a déclaré, attention, sa tâche, que l'empathie était la faiblesse fondamentale de la civilisation occidentale. Ben voilà. Ben voyons. Empathie donc, c'est l'histoire du docteur Suzanne Bien-Aimée. Donc au Québec, le nom des gens, quand même. Bon. Donc Suzanne Bien-Aimée. Qui a une trentaine d'années, qui a vécu un drame atroce, qui a du mal à arrêter l'alcool, et qui traite chacun de ses patients avec une humanité folle. À tel point que son équipe de soignants est contaminée par cette bienveillance souvent comique. Alors même si, que je sache, vous n'êtes ni pyromane, ni schizophrène dangereux, vous allez apprendre à écouter, grâce à Suzanne. Et écouter l'autre, c'est mieux s'entendre avec soi-même. Ouais, alors cette phrase, elle est de moi, pas de Thibaut de Saint-Maurice. Si Empathie est la plus belle des séries mélo, c'est qu'elle tisse plutôt un méli-mélo d'émotions contradictoires entre mélancolie et joie de vivre malgré tout. Alors vous savez, Ali, ceux qui rêveraient de penser leur vie, sans peur de l'avenir si c'est possible, mais bon, c'est pas possible, ce sont les jeunes. Même ceux qui bombent le torse, se pissent dessus en vrai, en imaginant leur vie future. Alors imaginez les autres, ceux qui doutent.
Comme le chantait Anne Sylvestre, et ceux qui doutent sont souvent...
ceux qui rougissent. Et oui Ali, comme le dit le titre, tellement beau, tellement vrai, la série d'Arte que tout le monde devrait avoir vue. Ça c'est même pas un conseil, c'est un ordre, ok? Avec un dispositif tout con, une classe de théâtre, bon, 10 élèves plus ou moins à l'aise avec leur corps et leurs émotions. Et un prof qui, au départ, a l'air un peu de se la péter avec ses conseils. Et puis, d'épisode en épisode, dont certains vous tirent les larmes, mais comme ça, comme par magie, chaque individu de ce petit groupe de jeunes gens, qu'ils soient timides, complexés, ou qu'ils fassent le malin pour épater la galerie, sans vraiment savoir qui il est, sort de sa chrysalide.
Tiens, dis-moi les mots qui sortent de toi, là, les premiers mots qui sortent de toi, sans réfléchir.
Bonjour,
allez,
bonjour.
Pour parler de toi, les premiers mots pour parler de toi, les premiers mots pour parler de toi, tout de suite.
Je sais pas.
Le premier mot qui vient de toi, que, pour parler de toi, tu te définirais comment tous les mots qui passent par ta tête,
rien,
top.
Rien.
T'es rien?
Je suis pas grand chose.
Tu penses vraiment ça? Tu penses que t'es pas grand chose?
Ouais.
Ce « ouais » me bouleverse à chaque fois. Ceux qui rougissent, voilà, c'est 8 petits épisodes après lesquels vous penserez mieux, au moins, la vie de vos enfants.
Ceux qui rougissent à regarder sur arte.tv. Thibaut de Saint-Maurice, vous avez adoré Empathie actuellement sur Canal+ et sur la plateforme MyCanal.
Oui, je pense que c'est vraiment une très très grande série. On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui et voilà un exemple de la façon dont l'esthétique de la série, c'est-à-dire le fait de poser un cadre avec des personnages sur plusieurs épisodes, peut nous aider aussi donc à nous approprier un peu ces univers compliqués. En France, on avait été frappé par le succès d'En Thérapie et on était dans un cadre assez convenu de cabinet de psy. Ici, on entre encore un peu plus loin dans la pathologie, puisque les patients de l'Institut psychiatrique Mont-Royal sont d'abord des criminels et ont commis des choses horribles, etc. Et ce qui est absolument magnifique, c'est de rendre visible un travail invisible, dont Guillemette, tu parlais, celui de l'écoute, celui du care, qu'on appelle le travail du care.
Le soin.
Soin, voilà. Et bien sûr, il y a de la médication, bien sûr, il y a des protocoles et des traitements, mais il y a cette écoute, ce care, et mention spéciale pour Thomas Ndjijol,
oh oui.
qui est absolument incroyable en tant qu'acteur dans cette série.
Et savoir écouter alors que soi-même, on est complètement détruite de l'intérieur, parce que c'est l'histoire quand même d'une psychiatre, elle, sa vie est en lambeaux. Et ça l'empêche pas d'être incroyablement à l'écoute et incroyablement soignante.
La cinéthérapie de Guillemette Odissino à podcaster et à partager sur l'appli Radio France. Dans un instant, on continue à évoquer la série télé comme instrument de connaissance de soi et des autres. Ce sera juste après avoir écouté Common Eileen par Dexys Midnight Runners, un titre de 1982. Thibaut de Saint-Maurice avait à peine 3 ans et Pierre Mauroy était Premier ministre. 10h29 sur France Inter.
Oh,
mon cher Thibaut de Saint-Maurice, puisque vous vous moquez de mon anglais, je vous laisse les annoncer.
Eh bien, c'était Common Eileen de Midnight Runner.
Allez,
Dixie's Midnight Runner.
Je suis pas rentré dedans. C'est pas...
Grand bien vous fasse.
Épisode 7, je deviens le junkie qui m'a conseillé la série. Les séries font de nous des junkies.
Faut absolument que tu regardes une série
sur France Inter.
Et vous avez massacré le nom du groupe. Hein. comment les séries nous aident à penser nos vies, c'est le thème dans Grand Bien Vous Fasse en compagnie de Clémentine Haines qui publie un stoïcien Hollywood, Le Bonheur en Série, avec notre spécialiste des séries Thibaut de Saint-Maurice. Écoutons le reportage, le premier reportage de Noé Brabant cette semaine dans les rues de Paris.
The Crown,
Alice in Borderland,
The Boys,
Lost,
Peaky Blinders,
Breaking Bad, hein, la base.
Est-ce qu'il y a des séries que vous regardez pour vous sentir mieux, des séries qui vous rendent heureuse?
Ouais, Fleabag, je la regarde énormément. Alors c'est pas forcément une série joyeuse spécialement, mais c'est une série qui me touche parce que je la trouve hyper humaine et ça touche à mon histoire personnelle. Du coup, je la regarde encore et encore parce que du coup, je me sens comprise et ça, pour le coup, ça me rend heureuse.
C'est la série Flash. The Flash que j'ai regardé quand j'étais petit, je l'ai regardé au moins 3 fois depuis. C'est trop bien, ça rappelle les souvenirs et tout. Je sais pas, c'est la série d'enfance.
Ça s'appelle Butterfly. Avec une journée un peu compliquée à cause du travail ou des cours, franchement, ça détend, ça fait passer le temps et ça fait aussi oublier un peu la journée.
Peaky Blinders. Bah oui, il y a des moments où je suis assez anxieux. Des moments où je suis assez anxieux, des moments où je suis assez triste, ça me revient souvent. Et revoir cette série, qui n'est pas forcément une série joyeuse, me réconforte aussi, pas forcément dans leur malheur, mais ça montre aussi qu'on a tous des difficultés, la façon dont c'est traité, la façon dont les personnages agissent. Il y a aussi des moments assez épiques, des moments d'humour.
C'est Downton Abbey que j'ai regardé complètement et qui m'a emballée. Voilà, il y a tous ces personnages très attachants et c'est vrai que ça fait du bien en fait, ça fait beaucoup de bien.
Réflexion sur ce micro-trottoir réalisé par Noé Brabant. Tous ces personnages très attachants qui font beaucoup de bien, nous dit cette amatrice de Downton Abbey, Clémentine Haines.
Bah c'est vrai, les séries c'est avant tout une distraction, avant tout un bon moment à passer. Après je sais pas si vous avez déjà fait des marathons de séries, pour l'avoir déjà fait donc notamment avec la série Friends. On est bien, c'est chouette, et puis à ce moment où on éteint la télé, et là, d'un coup,
le retour à la réalité,
le retour
peut être
à la
assez
réalité
rude.
Est dur. On est là, mais ils sont où mes 5 amis? Pourquoi moi, ma vie, elle n'est pas comme ça? Donc, comme toujours, c'est un petit peu le côté ambigu avec les séries. Et pour faire un petit peu de philosophie aujourd'hui, quand même, j'ai réalisé, alors je ne sais pas si j'étais la première à le réaliser, en tout cas, je l'ai réalisé au cours de mes vidéos de philo, etc.
Sur YouTube,
voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de terminale, ça remonte plus ou moins loin, mais de la fameuse allégorie de la caverne de Platon. Donc on va rappeler un petit peu cette histoire de caverne. Pour Platon, les hommes vivent comme enchaînés, enfin les humains vivent comme enchaînés au fond d'une caverne. Ils sont bien, on est bien au fond de la caverne. Et ils regardent des ombres projetées sur le mur. Et ils sont persuadés que ces ombres sont la réalité. Un peu comme des ombres chinoises, je ne sais pas, l'ombre d'un papillon. Et ils se disent, cette ombre, c'est ce qu'est un papillon. Et Platon nous dit que tout le travail de la philosophie, c'est justement apprendre à se libérer de ces chaînes et de sortir de la caverne. C'est un chemin qui n'est pas très agréable, parce qu'on est bien au fond de la caverne, qu'en plus pour sortir, il y a comme un faux plat montant, tout ça, c'est pas agréable. Mais une fois qu'on sort de la caverne, on voit le monde tel qu'il est vraiment. On voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Et je trouve, enfin ça m'a marqué, de se dire que, en fait, quand on est au fond de la caverne, c'est un peu Netflix and chill chez soi, en fait. On est enfermé chez nous, on regarde ces ombres projetées sur notre écran. Encore une fois, on sait que ce n'est pas la réalité. Je ne gâche rien à personne en disant que les séries ne sont pas la réalité. Mais il y a cette impression qu'on s'évade un peu dans ce monde qui n'est pas la réalité, dans lequel on se sent bien. Et c'est de ça qu'il faut faire un petit peu attention. Je ne trouve pas qu'il faut arrêter les séries, mais juste se dire... Attention.
Vous êtes d'accord avec ça, Thibaut de Saint-Maurice? À leur façon, les séries prennent soin de nous, notamment dans les périodes difficiles, notamment en ce moment, depuis quelques années, notamment depuis le Covid. Elles peuvent, ces séries, devenir de véritables doudous, des aides-redons pour absorber les émotions désagréables. Je comprends totalement ce que nous dit Clémentine Haines, mais tout de même, ce besoin de réconfort qui passe notamment par les séries.
Oui, parce que, au fond, effectivement, leur premier mérite, c'est de ne pas être le monde. c'est d'être projeté finalement d'un univers de fiction qui effectivement nous distrait ou au sens de nous divertit au sens de nous éloigne de la réalité quotidienne de nos existences. Et donc, rien que le fait de débrancher, on entendait dans le micro-trottoir, là, voilà, après une journée anxieuse, etc., rien que le fait de débrancher, en fait, et me plonger dans un univers de fiction avec des personnages, etc., bien sûr que ça détend, ça soulage, ça fait penser à autre chose. En revanche, ce qui, à mon sens, est le mystère de la série, mais qui n'est pas propre à la série, qui est le mystère de la fiction, en fait, et donc derrière ça aussi d'une certaine représentation artistique qu'on peut avoir au cinéma, en littérature, etc., c'est que c'est pas parce qu'on est devant un écran ou qu'on est dans un univers de fiction qu'on a éteint tout rapport à la vérité. Et qu'il y a cette tension paradoxale qui fait que c'est parfois en racontant une histoire et en fréquentant un personnage inventé que l'on va dire quelque chose de la vérité de notre existence. Je prends un exemple vraiment de base, mais on dit, voilà, ce qui est fascinant chez Molière, c'est la manière dont il a compris un peu les tenants, les aboutissants de la condition humaine, par exemple, les vertus et les vices des personnages. L'avare, oui, c'est un personnage complètement inventé, et pourtant, il y a là une vérité qui se dit. Donc, c'est pour ça que il faut tenir les deux en même temps. Et qu'il y a, en fait, cette paradoxe d'une vérité de la fiction qui, en nous détournant de notre réel, nous permet parfois d'être un peu plus au cœur de la vérité de nos existences.
Mais tout de même, Clémentine Haynes, à travers les péripéties que vivent nos personnages favoris, nous nous posons des questions morales. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ou est-ce que c'est entre gris clair et gris foncé? On se pose des tas de questions. Qu'est-ce qui nous fait peur? C'est quoi être heureux? C'est quoi l'amour? Qu'aurais-je fait à la place de ce personnage?
Tout à fait, mais c'est en ça que les séries sont très bien à regarder, que je m'en sers beaucoup pour illustrer notamment des propos de philosophie, parce que c'est de la philosophie appliquée, parce que parfois c'est plus sympa d'illustrer des questions de morale en citant tel épisode de Game of Thrones qu'en allant chercher dans l'histoire de France ou quoi. Donc il y a ce côté, voilà, reflet de la société à un moment donné. On voit aussi l'évolution des mentalités au travers des séries. Je ne sais pas si on prend la série Friends, par exemple, la question de l'homosexualité est un petit peu traitée dans Friends, mais c'est vraiment à coup de grosses blagues, voilà, qui aujourd'hui, en 2025, passent un petit peu moins de « Haha, Joey et Chandler, ils sont toujours ensemble, ils doivent être gays, haha, Ross, il s'est fait quitter parce que sa femme est gay, et tout le monde dit « Oh, la chance, ta femme est gay !» Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si on prend The Last of Us, je vais peut-être spoiler un petit peu, voilà, il y a le personnage principal qui est homosexuel, et quand elle apprend que sa copine est enceinte, elle dit « Oh, je vais devenir papa !» Et on voit une vraie évolution, on voit voilà, un véritable reflet de la société, on grandit aussi avec ce qui arrive au personnage, mais ça marche aussi dans l'autre sens, et c'est ça qu'il faut noter.
Guillemette.
Non mais moi, il y a juste un truc que je voudrais préciser, c'est on entendait dans le micro-trottoir, c'est pas simplement revenir dans des univers quand on est fatigué, qu'on a passé une mauvaise... C'est retrouver des gens. Genre, dans le monde actuel, où on est tous... nos enfants se barrent à l'étranger, on se sépare des mecs ou des compagnes ou des choses... rien n'est stable. Et les personnages de série, ce qui est bien, c'est qu'on appuie sur le bouton et ils sont toujours là.
Disponibles.
Ben oui, ils sont immuables, ils sont pas partis, et c'est ça qui est rassurant et peut-être un peu effectivement mensonger également. Mais il y a une notion de fidélité, de retrouver vraiment quelqu'un qu'on aime en fait, et c'est pour ça qu'on a tellement de mal à la fin de certaines séries. C'est pas simplement qu'on quitte un univers, on quitte des gens.
Clémentine Haynes, une série américaine qui vous a bouleversé, qui vous a marqué, c'est This Is Us, créée en 2016 par Dan Fogelman. Quel est l'argument, en quelques mots, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu? C'est une série qui vous a aidé à accepter la fragilité, l'impermanence de nos existences. L'argument, en quelques mots?
C'est une série qui m'a, moi, énormément marqué. Je pense qu'il n'y a pas eu, je ne sais pas si vous l'avez vu ici.
Mais ça parle de quoi, en quelques mots?
C'est l'histoire, en fait, d'une famille, tout simplement, d'une fratrie. Qu'on voit évoluer un peu à deux échelles, à la fois leur enfance et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et comment ils se cherchent aujourd'hui. C'est une question sur le poids du passé, le poids des liens familiaux, mais de manière très douce aussi. Il n'y a pas d'histoire horrible, il n'y a pas des secrets de famille affreux, etc. C'est vraiment sur une série, je trouve, sur l'amour au sein de la famille et le temps qui passe. Et personnellement, je crois qu'il n'y a pas eu un seul épisode où je n'ai pas pleuré. je suis très émotive, mais ça a touché énormément de cordes sensibles.
Qu'est-ce que ça a pris sur vous? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous grâce à This Is Us ?
Je pense que ça m'a vraiment montré quel est le poids qu'il y avait pour moi aussi de la famille et du rôle du passé. Je suis quelqu'un de très nostalgique pour qui l'enfance a énormément d'importance et peut parfois m'aider, enfin non à l'inverse, m'empêcher d'avancer. Je suis un petit peu des fois bloquée dans le passé. Et là, d'avoir tous ces sentiments mis aussi clairement à l'écran, de se dire « Ah mais en fait, je suis pas la seule à ressentir ça », là c'est dit de manière tellement poétique. Ça a permis un peu de mettre des mots et des images et des sentiments sur ce que je ressentais moi-même.
Vous, Thibaut de Saint-Maurice, c'est la série, donc on parlait de This Is Us. Hein,
oui, pas The Last of Us. Deux ambiances différentes.
Thibaut de Saint-Maurice, vous, c'est la série Six Feet Under qui a été très importante pour vous. Elle vous a aidé à vivre le deuil de votre père. Alors, Six Feet Under, c'est un classique du nouvel âge d'or des séries télé au début des années 2000, créé par Alan Ball. L'argument, le pitch en quelques mots
C'est très simple, c'est l'histoire d'une famille de croque-morts, la famille Fisher à Los Angeles, qui tiennent une maison funéraire. Et dans le premier épisode, le patriarche, celui qui est voilà, le père de la famille, conduit son corbillard et se fait un accident avec un bus. Et donc ça raconte tout simplement la disparition, le deuil pour une famille qui pourtant est habituée à le vivre tous les jours. Chaque épisode commence par la mort de quelqu'un qui va ensuite être recevoir les soins funéraires de la famille Fisher. Voilà, et après, c'est vraiment banal et tout simple, mais j'ai regardé cette série dans les derniers mois de vie de mon père quand j'avais 20 ans, et j'ai suivi cet apprentissage des personnages à vivre le deuil, alors que moi-même j'étais en train d'apprendre à vivre un deuil. Et donc là, il y a eu un phénomène de concernement, de compagnonnage très très fort, et ce qui fait qu'elle a une place tout à fait singulière dans ma vie.
Six Feet Under.
Et c'est vraiment une série visionnaire, hein, pour beaucoup de problèmes de société actuelle. Déjà, à l'époque, cette série abordait énormément de choses, comme par exemple la dépression maternelle,
Dépression du postpartum.
Aussi la dépression du postpartum, le stalking, des tonnes de sujets qui sont incroyablement contemporains et qui étaient déjà, tout était dedans en 2000.
Bonjour Lucie Grandet-Lavigne.
Bonjour.
Alors, vous collaborez régulièrement à la programmation des émissions de France Inter. L'automne venu, vous adorez revoir une série réconfortante, Gilmore Girls, créée en 2000 par Amy Sherman-Palladino. Guillemette Odissino, la saison dernière, en avait fait une amie du vendredi. C'est l'histoire de la relation fusionnelle entre une mère et sa fille, fille qu'elle a eue à l'âge de 16 ans. Pourquoi cette série est-elle aussi importante dans votre vie et pourquoi la regardez-vous régulièrement? Expliquez-nous. Et vous m'avez conseillé d'ailleurs, parce que j'ai voulu la regarder avant l'été, mais dit non, attends l'automne, tu vas te régaler avec Gilmore Girls.
Je pense que ça raconte vraiment le lien qu'on aimerait tous avoir avec sa mère, quoi. Comme vous l'avez dit, c'est l'histoire de Rory et Lorelai, donc une mère et une fille, et elles ont un lien vraiment hyper fusionnel. Ça se rapproche même d'une sororité hyper... c'est assez dingue et c'est vraiment quelque chose... Je pense que la série commence quand Rory est adolescente et c'est vraiment le... Enfin, moi, je sais que j'ai pas du tout ce lien avec mes parents.
Et vous aimez, hein,
Rory ? Oui, non, mais là, c'est une telle fusion. Enfin, on n'a même pas l'impression que c'est quelque chose de l'ordre d'une mère et de sa fille. C'est vraiment une amitié hyper forte qui est... C'est une super fusion et c'est assez prenant. C'est hyper...
C'est réconfortant dans les périodes difficiles.
C'est hyper réconfortant aussi. C'est une série qui est très douce, mais en même temps très forte. Et il y a plein de...
Et c'est une série qui, sous le côté sitcom, comme ça, qui a l'air un peu bonbon et tout, en fait, a de temps en temps des dialogues absolument hallucinants. Elle parle de Kafka, elle parle de Proust, elle parle d'Orson Welles. Dans leurs conversations, elles échangent sur des trucs. En fait, elles sont très cultivées. Et ça passe comme ça dans les dialogues. C'est plus impertinent que ça n'en a l'air, en plus.
Oui. Gilmore Girls à regarder sur Netflix. Merci, Lucie Grandet-Lavigne. Et nous accueillons notre chef, Grégory Cohen, chef des restaurants One Place à Rungis. Alors vous êtes intéressé à quelques séries qui mettent la cuisine en scène.
Oui, oui, parce que la cuisine, on sait très bien que c'est le socle de nos vies, c'est ce qui réunit les amis, les familles, les générations, et ce qui crée un lien, qui forge des souvenirs, qui s'invite dans nos quotidiens. Donc pas étonnant, en fait, qu'elle trouve naturellement sa place au cœur des séries, devenant un langage universel, un pont entre la fiction et la réalité. Ces univers, vous savez, ces séries, cet espace qui s'invite dans nos foyers, à l'intérieur de notre maison, et qui s'installe en temps long, font devenir un repas partagé ou une recette culte, comme un moment de proximité, une chaleur qui dépasse l'écran, parce qu'il raconte toujours bien plus qu'un plat. Si on prend One Piece, par exemple, c'est
le
manga.
Ouais.
Phénomène, qui suit Luffy et ses compagnons pirates. Alors, il y a plein de caractères différents, plein de personnages différents dans Luffy. Au milieu des combats, des tempêtes, chaque membre de l'équipage a sa place, et parmi eux, il y a Sanji, le cuisinier, qui a été recueilli, sauvé jadis par un chef, et ses plats qui nourrissent non seulement ses camarades, ils cimentent le groupe, en fait, et il rappelle que l'aventure se savoure toujours mieux à plusieurs. Dans Naruto, ça c'est aussi un autre manga, c'est un monument aussi, c'est un simple bol de ramen. Un bol de ramen, alors c'est un plat japonais,
une
soupe avec des nouilles et un morceau de porc, qui est transcendé et prend une valeur immense. En fait, l'échoppe Ichiraku, où il va manger ce bol de ramen, c'est plus un décor. Ça incarne le refuge d'un orphelin qui trouve dans ce bouillon la chaleur d'une famille recomposée. Et au fil des épisodes, au début il mange seul son bol de ramen, et au fil des épisodes on le voit passer de repas solitaires à des moments partagés, symbole de son intégration et de son évolution. Il grandit et on le voit grandir, on est content de ça. Avec Friends évidemment, sitcom culte
des années 90. Le sandwich de Joey.
Évidemment, on passe de Central Perk à l'appartement de Monica. Et l'appartement de Monica, c'est une salle à manger collective, en fait. Et on passe de la dinde de Thanksgiving au sandwich mythique de Ross. La cuisine devient le théâtre des souvenirs partagés et des petites névroses de chacun. C'est un véritable café du commerce à l'américaine.
Moi, ça me donne toujours, quand je regarde Friends, ça me donne toujours envie de manger des cookies, des...
D'ouvrir un pot de glace, elle mange souvent des pots de glace à la
cuisine. C'est hyper réconfortant, on se retrouve là. D'ailleurs, ils ont sorti leur livre de recettes aussi de Friends, comme pour d'autres. Puis il y a Desperate Housewives, évidemment, la vitrine parfaite de la banlieue américaine policée, on en a parlé. La cuisine y devient un outil de pouvoir, de rivalité. Alors personne ne l'incarne mieux que Brie Van de Kamp, dont les tartes et les buffets sont des chefs-d'œuvre de perfection. Un peu comme vous, Ali, d'ailleurs. Mais face à elle, c'est vrai que vous êtes un peu notre Brie Van de Kamp, mais face à elle, ses voisines rivalisent parfois avec maladresse et parfois avec excès. Alors derrière les nappes immaculées et les muffins dorés, ce sont les égos, les frustrations et les secrets qui mijotent. Ces séries, en fait, si différentes, nous rappellent que la cuisine n'est jamais un détail. Elle peut unir, rassurer, hiérarchiser ou diviser, mais toujours elle raconte une histoire plus grande, celle de notre besoin de partager, de séduire ou simplement d'exister à travers ce que l'on met dans l'assiette. Et à l'image de nos repas et de nos histoires, elles font écho à nos amours, nos déceptions et nos retrouvailles.
Et on peut citer Bistronomia, hein, actuellement visible sur la plateforme France.tv, hein, qui met en scène des chefs, des restaurateurs. Vous l'avez vu, Guimette ?
Oui, c'est très très bien, très très bien. Non mais après, moi je pensais aussi aux Tortues Ninja, hein, qui mangent des pizzas. Non mais attendez, c'est important.
Mais c'est vrai, bien sûr.
Enfin, je veux dire, c'est l'un des accessoires les plus importants de ce dessin animé.
Alors la liste, elle est très longue, Guimette, si on s'y met là.
Merci Grégory Cohen. On peut vous retrouver sur votre compte Instagram, Grégory Cohen off avec deux F. Dans un instant, ce sera la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice. En attendant, on écoute Paris Amour par Kerenan.
D'un monde qui m'a eu à l'usure, d'un vieux fado qui vient de loin, qui bat son plein, qui cherche quelqu'un. J'ai rencontré dans les coulisses le son, l'ivresse et les délices de ceux qui longtemps avant moi y avaient droit à cette vie-là. Tu sais, parfois ça sent l'arnaque, y en a qui se cassent, y en a qui râlent. Ceux qui se taisent, qui rasent les murs, j'ai leurs empreintes sur mes serrures. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens. Des heures entières laissées pour compte, pour l'infini d'un demi-siècle d'une longue nuit. Tu sais, parfois ça sent la fin. Y en a qui se mangent, qui se doutent de rien. Ceux qui te plaisent, qui parlent sans fin. J'ai mes serrures sur leurs enceintes. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets. Que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens le sommet.
Kerenan, interprété Paris Amour.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dit mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon ?
Si. Ben, si. Si.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, pour votre chronique Les punchlines de la philo, vous avez choisi cette formule de Marx à propos de la religion, elle est l'opium du peuple.
Alors oui Ali, donc, c'est ce qu'écrit Karl Marx hein, donc, dans un livre, alors le titre est un peu technique, hein, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, 1844. Avant d'être le penseur donc, de l'idée de communisme et l'auteur du fameux manifeste du Parti communiste, Marx est un jeune philosophe et c'est avec des textes de jeunesse comme ça qu'il commence à ouvrir une nouvelle voie dans la manière de penser la société politique et le poids de l'économie. Et ce que propose Marx, en fait, à cette époque, c'est ni plus ni moins que de renverser la table, de prendre les choses à l'envers, de retourner la manière de voir le monde. Il a une métaphore un peu célèbre à cet endroit. Il dit, vous savez, dans les vieux appareils photo, quand on regarde dans l'objectif, en fait, bah, tout est inversé. Et en fait, il faut faire ça, il faut inverser la manière de voir le monde. Et donc, comme ça, il retourne la manière de penser la religion. Pour Marx, la religion, ça n'est pas un dogme surnaturel, c'est pas une révélation divine, mais c'est la conséquence de conditions sociales, politiques et économiques. La religion ne vient pas d'en haut, mais elle vient, pourrait-on dire, d'en bas. Elle n'est pas inspirée par un quelconque dieu, mais elle est fabriquée par les hommes et par la structure de leurs conditions de vie. Pour bien comprendre, donc, il faut simplement retourner le problème.
Et donc, de ne plus penser la religion comme une vérité, mais comme une illusion.
Voilà, exactement. Dire que la religion est l'opium du peuple, c'est d'abord dire qu'elle nous trompe. Qu'elle agit comme une drogue qui nous endort et qui nous déforme, enfin qui déforme notre rapport à la réalité. Alors en quoi est-ce que la religion nous endort ? Eh bien pour Marx, la religion nous endort parce qu'elle nous promet une vie meilleure, un paradis, un salut. Alors non pas dans cette vie-là, mais dans une autre vie, après la mort. En nous projetant vers un autre monde, elle nous détourne du monde réel et pire encore, elle le justifie. Tous les malheurs du monde, toutes les injustices du monde et toutes ces inégalités sont rendues supportables par des religions qui nous apprennent à les supporter en espérant le salut promis. Hein. Heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux, c'est la Bible qui le dit. Pour Marx, la religion est une formidable alliée des classes bourgeoises qui permet de maintenir la domination sur les classes ouvrières et donc de justifier les inégalités dans les conditions matérielles et économiques d'une société. Donc quand Marx dit que la religion est l'opium du peuple, il présente la religion comme un mauvais remède à un vrai problème. Mais comme un remède quand même, car l'opium ben, soulage aussi. Il soulage la souffrance physique et disperse la conscience de la misère sociale et économique. La religion est une illusion qui s'impose à ceux qui souffrent, mais si elle s'impose avec autant de succès, c'est parce que ces illusions adoucissent la cruauté de la réalité. Et donc c'est un remède qui ne traite que les symptômes, mais qui préserve donc la source du mal. Alors, la critique de la religion est rude, mais Marx ne la critique pas seulement pour elle-même. Hein. Ce n'est pas par athéisme ou pour bouffer du curé, pourrait-on dire familièrement, c'est-à-dire par anticléricalisme que Marx critique la religion. S'il le fait, c'est encore une fois pour renverser la table, comme on disait, pour dénoncer l'illusion au nom de la réalité et pour remettre au centre la question des conditions politiques et économiques du bonheur. Alors là-dessus, qu'on soit religieux ou pas, eh bien on peut, je crois, trouver un terrain d'accord. Le bonheur est à vivre plus qu'à espérer.
Les punchlines de la philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas, ce soir à 20h, l'heure philo avec notre amie Patricia Martin. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci Clémentine Haynes. On peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube. Parle-moi de philo. Et en librairie, on peut lire Un stoïcien à Hollywood, Le bonheur en série aux éditions de l'étudiant. Merci à Nathalie Romero qui m'a aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Noé Brabant. Merci à Claire Destacant pour la réalisation. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique ce matin, Achille Aquenin. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron. Et lundi, dans le MAG de la vie quotidienne, à 10h30 dans la grande matinale, faut-il éviter de consommer de l'huile végétale avec le scandale de l'hexane, ce dérivé du pétrole présent dans l'huile révélé par le journaliste Guillaume Coudray.